Afrique.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Washington Forum. Le Burundi à nouveau à la une. Malgré la pression de la rue et les appels de la communauté internationale, Pierre Nkurunziza persistait à vouloir se présenter pour un troisième mandat à la tête du pays. À l'image de Blaise Compaoré au Burkina, il pourrait être balayé par la volonté populaire, aidé par des militaires.
Près de trois semaines après le début des manifestations à Bujumbura, le général Godefroy Niyombare a proclamé la destitution du chef de l'État. Coincé à Dar es Salaam par un sommet régional, Pierre Nkurunziza ne peut rentrer au pays. Avec ce putsch, où va le Burundi? Élément de réponse dans ce Washington Forum.
Washington Forum.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Grande incertitude à Bujumbura ce soir. Comme toujours, lors de tentatives de coup d'État, beaucoup d'informations nous parviennent et il est parfois difficile de vérifier leur authenticité. Ce qu'on peut dire avec certitude ce soir, c'est qu'un coup d'État est bel et bien en cours contre le président Pierre Nkurunziza. Une partie de l'armée s'est rangée derrière le général Godefroy Niyombare. Ce dernier a proclamé la destitution de Pierre Nkurunziza. Mais sur le terrain, la situation militaire n'est toujours pas clarifiée, malgré la fermeture annoncée des frontières depuis mercredi. Les combats aujourd'hui autour de la radio-télévision nationale ont fait au moins trois morts parmi les militaires. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, les derniers développements avec Morgane Guiriec.
Ils chantent et dansent dans Bujumbura, les manifestants opposés à un troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Une nouvelle fois, le 13 mai, ils sont descendus dans la rue, mais ils flottaient comme un air de victoire cette fois-ci. Après des semaines d'affrontements violents avec la police, qui ont fait des dizaines de morts, le général Godefroy Niyombare a annoncé la destitution du président burundais.
Le président Nkurunziza Pierre est destitué de ses fonctions. Le gouvernement est dissous.
Ce jeudi, la bataille pour les ondes a été lancée. La radio-télévision nationale burundaise est l'objet de toutes les convoitises. La situation reste complexe, la population a peur et il est bien difficile de savoir qui contrôle tout le Burundi. Incertitude aussi sur le sort de Pierre Nkurunziza, coincé à Dar es Salaam, où il devait assister mercredi à un sommet régional. Le président burundais serait toujours dans la capitale tanzanienne. À Bujumbura, même si le sort du putsch reste incertain, les Burundais, notamment les jeunes et les femmes, estiment qu'on ne pourra pas revenir en arrière.
La voix du peuple est un fleuve, on ne peut pas arrêter un fleuve en marche. Il faut qu'ils se rendent à l'évidence, c'est pas une décision sage. Quel gouvernement attaque ses mères, ses filles, ses enfants? C'est quoi comme gouvernement? Est-ce que nous sommes armés?
La communauté internationale surveille la situation et ce jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence sur le Burundi.
Le Burundi, plus que jamais à la croisée des chemins, c'est l'objet de ce Washington Forum. Alors Morgane le mentionnait précédemment, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne la tentative de coup d'État au Burundi. Les 15 membres du Conseil, je cite, condamnent ceux qui cherchent à s'emparer du pouvoir par des moyens illégaux. C'est ce qu'a déclaré la présidente du Conseil dans une allusion implicite à la tentative de coup. Et par vidéoconférence depuis Nairobi, l'émissaire de l'ONU au Burundi, Saïd Djinit, a souligné qu'il était encore prématuré de prédire le succès ou l'échec du coup d'État et qu'on ne savait pas encore clairement où se trouve le président burundais Pierre Nkurunziza. Selon M. Djinit, cité par un diplomate, il n'y a pas de composante ethnique pour l'instant dans les violences en cours, malgré les craintes d'affrontements possibles entre Hutu et Tutsi. L'émissaire de l'ONU a jugé la situation globalement calme en dehors de la capitale. Ce jeudi, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a condamné l'utilisation de la force pour prendre le pouvoir et annoncé l'envoi d'observateurs des droits de l'homme. On rappelle aussi que la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Nkosazana Dlamini-Zuma, avait appelé dès la semaine dernière au report des élections. Pour tenter de décortiquer une situation bien complexe, nos invités ce soir, depuis Bujumbura, le porte-parole de Pierre Nkurunziza, Willy Nyamitwe. Bonsoir.
Bonsoir, je dis bonsoir à tous les auditeurs de la Voice of America.
Également depuis la capitale burundaise, Pacifique Ninina Hazwe, du collectif contre un troisième mandat. Je rappelle que vous êtes l'objet d'un mandat d'arrêt et que vous vivez en clandestinité. Bonsoir.
Bonsoir.
Depuis Addis Abeba, via Skype, Ahmed Ould Abdallah du Centre des stratégies pour la sécurité du Sahara Sahel. Vous avez surtout été représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Burundi entre 1993 et 1995. Bonsoir.
Bonsoir.
Et depuis le département d'État ici à Washington, Robert Jackson, sous-secrétaire d'État adjoint chargé des affaires africaines. Vous avez aussi été ambassadeur des États-Unis au Burundi. Bonsoir.
Bonsoir.
Et dans ce studio, notre collègue du service Kirundi de VOA, Frédéric Kundikidje. Bonsoir.
Bonsoir, Nicolas.
Voilà, chers téléspectateurs, le décor est dressé. On commence tout de suite. Willy Nyamitwe, vous maintenez ce soir que Pierre Nkurunziza contrôle toujours le Burundi?
Bien sûr, Pierre Nkurunziza contrôle le pays. Il est le président de la République élu. Hier, il y a eu une tentative fantaisiste de coup d'État qui a échoué et le président de la République est au Burundi. Il est arrivé au pays et contrôle et l'armée et la police et reste le président de la République du Burundi élu. Et donc, il condamne ce coup d'État, il condamne ce putsch et les putschistes sont en cavale.
Alors, information très importante que vous donnez ce soir, Willy Nyamitwe, vous affirmez que Pierre Nkurunziza se trouve au Burundi. Quand regagnera-t-il la capitale?
Mais il se trouve au Burundi. Eh bien, beaucoup de gens veulent savoir où il est, sur, dans quelle commune, quelle colline, quelle province. Eh bien, l'information qui est là et qui est suffisante, c'est que le président de la République est au Burundi. Et vous savez que même quand il est au Burundi, il ne reste pas dans une seule province ou dans une même commune, il reste toujours auprès de la population. Donc le président de la République est au Burundi et c'est l'essentiel. Quant à savoir dans quelle commune, dans quelle province, eh bien cela, je ne pourrais pas vous le dire directement.
Alors,
pour
Pacifique...
des raisons de sécurité et de stratégie.
Alors Pacifique Ninina Hazoué, après des semaines de manifestations et maintenant des divisions au sein de l'armée, vous m'avez confié en préparant cette émission que vous craigniez une nouvelle guerre civile.
Oui, c'est vrai. Alors, tout à l'heure, le porte-parole du président nous dit que le chef de l'État est là. Bon, c'est la première fois que je l'entends. Je ne savais pas qu'il est là, puisque nous sommes dans un pays où on tue des gens et où nous manquons un chef de l'État qui vient au secours de ces gens qui sont en train d'être tués tous les jours. Donc, moi, je ne savais pas qu'il est là et je ne savais pas que les présidents se cachent quand ils sont là. Et deuxièmement, oui, j'ai des craintes. J'ai des craintes en ce moment où d'un côté nous avons une armée de loyalistes qui soutient Pierre Nkurunziza et de l'autre côté nous avons ceux qui ont annoncé le coup d'État, qui ont annoncé la destitution de Pierre Nkurunziza et les deux camps sont mêmement déterminés à poursuivre leur combat et ça nous inquiète et je m'inquiète que cela risque de conduire effectivement à une guerre civile.
Alors à noter que la communauté est-africaine a condamné la tentative de coup d'État au Burundi dès mercredi. Écoutons à son sujet le président tanzanien Jakaya Kikwete, hôte du sommet de Dar es Salaam.
The summit condemns in the strongest terms possible.
Ce sommet condamne dans la manière la plus ferme possible le coup d'État au Burundi.
The summit is of the view that it does not solve the problems of Burundi.
Le sommet estime que cela ne résout pas les problèmes du Burundi. Nous n'acceptons pas ce coup. Nous condamnons de la manière la plus forte et nous appelons au retour de l'ordre constitutionnel.
Voilà pour la déclaration de Jakaya Kikwete. Ahmed Ould Abdallah, vous avez été en poste à un moment crucial de l'histoire du Burundi. Quelle est votre lecture de ce qui se passe actuellement? Les dirigeants burundais n'ont pas appris des erreurs du passé?
Écoutez, j'étais convoqué au Burundi de 1993 à 1995 et j'ai aidé avec les Burundais naturellement à la signature de la convention de gouvernement qui est la première tentative de partage de pouvoir. Et je viens de rentrer de Burundi il y a un mois dans le cadre d'une mission des Nations Unies pour évaluer les politiques de stabilité. Ma première réaction, c'est une grande tristesse. Tristesse de voir un pays.
Alors, des petits soucis avec la connexion d'Addis Abeba. Alors, Frédéric, vous êtes ici en studio avec moi. Saïdi Nitt le disait, on peut d'ores et déjà écarter l'aspect ethnique ou tout Tutsi, une lecture un petit peu passée maintenant dans cette crise burundaise.
Jusque maintenant, on peut affirmer qu'au Burundi, il n'y a plus de problèmes ethniques. Mais quand il y a des situations de guerre pareilles, il y a des gens qui savent que, disons, l'ethnie reste toujours une corde sensible. Il y a des gens qui peuvent s'en servir et on ne peut jamais prédire.
Alors, qui est ce général, Godefroy Mihombare, qui a annoncé hier la destitution du président Pierre Nkurunziza?
Général Godefroy Mihombare fut ambassadeur du Burundi à Nairobi et par après, il avait remplacé le chef du bureau d'intelligence. C'était à l'époque un certain... j'oublie le nom, mais de toute façon, il a été... chef du bureau d'intelligence pendant un certain moment, jusque dernièrement, quand il a été démis de ses fonctions, parce qu'il avait dressé une sorte de rapport disant au président que, donc, lui disant verbalement et explicitement les conséquences mauvaises et néfastes qui découleraient donc de sa décision de se présenter encore une fois pour diriger le pays.
Alors, bien évidemment, la communauté internationale suit de près la situation à Bujumbura. François Hollande a appelé ce jeudi toutes les forces en présence à la fin des violences et à la reprise rapide du processus électoral. Dès hier, la présidence américaine s'est faite entendre. Écoutons tout d'abord Josh Ernest, porte-parole de la Maison-Blanche.
Nous appelons toutes les parties à déposer les armes, mettre fin à la violence et faire preuve de retenue. Et les autorités burundaises ont la responsabilité de rétablir les conditions pour la tenue d'élections crédibles.
Voilà pour cette déclaration de la Maison-Blanche. Nous sommes en ligne avec le département d'État ici à Washington. Robert Jackson, sous-secrétaire d'adjoint chargé des affaires africaines. Que dit Washington sur la situation au Burundi ce soir?
Écoutez, nous estimons que la situation reste très fluide et nous suivons de près les développements. Je viens de parler avec notre ambassadeur à Bujumbura et nous croyons que les positions exprimées par les Nations Unies et la communauté de l'Afrique de l'Est sont importantes. Nous condamnons la violence, nous appelons à tout le monde à régler les différends paisiblement et nous espérons que... on peut relancer le dialogue et préparer le terrain pour des élections.
Monsieur Jackson, pourriez-vous imposer des sanctions contre le pays si le coup d'État se confirme?
Nous n'avons pas encore décidé notre position là-dessus. On va suivre les événements et puis... décider notre réponse.
Et Monsieur Jackson, confirmez-vous, on a entendu le porte-parole du président de Nkurunziza affirmer que le président était de retour au Burundi. Vous confirmez cette information? Il est toujours en charge à Bujumbura, selon vous?
Je ne peux pas confirmer cette information.
Merci, voilà, le décor est planté. Avant de poursuivre notre émission, marquons une pause. On se retrouve juste après pour la suite de ce débat et les derniers développements de la crise burundaise.
Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne.
Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle.
Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes.
De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales.
Washington Forum.
Washington Forum.
Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par deux autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
Et merci de votre fidélité à VOA Afrique. Retour dans ce Washington Forum. Gros plan cette semaine sur le Burundi, où une partie de l'armée tente de renverser le président Pierre Nkurunziza. Le thème de cette semaine a suscité des milliers de réactions sur notre page Facebook. Je vous propose de lire certains de ces commentaires. On va commencer par Bat de Brun. Il est à Dimbokro, c'est en Côte d'Ivoire. Selon lui, Pierre Nkurunziza subit le syndrome Compaoré. À qui le tour? C'est la question qu'il pose. Thierry Lebeau à Kinshasa en RDC. Les présidents africains doivent comprendre les signes du temps, car l'Afrique n'a plus besoin d'hommes forts, mais plutôt d'institutions fortes Vive l'Afrique. Autre commentaire, René-Yves Ayandipé à Lomé au Togo. Je ne sais pas pourquoi certains têtus, soi-disant militaires loyalistes, risquent leur vie en voulant sauver le fauteuil présidentiel d'une seule personne. Et enfin, Carlos Mboko à Kolwezi, c'est en RDC. Ce qui fait la grandeur d'un homme d'État, c'est de savoir lire les signes du temps et quitter le pouvoir à temps. Retour à notre débat avec Willy Nyamitwe, Pacific Ninina Hazwe, Robert Jackson, Amadou Ould Abdallah et bien sûr notre collègue Frédéric Ngoukindje du service Kirundi, ici à la Voix de l'Amérique. On retourne à Bujumbura, Pacific Ninina Hazwe du collectif contraint troisième mandat. On l'a vu au début de l'année en République démocratique du Congo à Kinshasa, de nombreux jeunes parlent de l'exemple burkinabé qui doit faire tache d'huile sur le continent selon eux. Alors évidemment, chaque pays a son histoire, mais selon vous, la révolution au Burkina Faso, c'est un exemple selon vous ?
Bon, je ne sais pas si les gens, avant de réagir, doivent prendre l'exemple sur les autres. Je ne sais pas si, en nous opposant au troisième mandat de Pierre Nkurunziza, on s'est d'abord intéressé au cas burkinabé. Bon, j'ai l'impression qu'au Burundi, on en a parlé avant les Burkinabés. Le président Nkurunziza a annoncé son projet de révision de la Constitution fin décembre 2011. Et immédiatement, nous avons dit, généralement les présidents africains changent de constitution lorsqu'ils sont à la fin d'un deuxième mandat et qu'ils n'ont pas le droit de faire un troisième. Et depuis lors, on a eu beaucoup de débats sur cette question et un mouvement s'est mis en place contre ce projet de troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Je dois dire aussi que lors du renversement du président Blaise Compaoré, beaucoup de Burundais se sont reconnus dans ce que faisaient les Burkinabés. Il y a eu beaucoup de comparaisons entre le président Nkurunziza et le président Burkinabé. Mais bon, comme vous dites, les peuples sont différents, chacun a son histoire. Mais les Burundais en ont assez. Ils ont dit, nous voulons défendre notre démocratie et il n'y a pas une seule personne qui devra nous imposer ses volontés en violant notre constitution et en violant l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Nous avons un texte unique qu'on n'a pas dans d'autres pays qui s'appelle l'accord d'Arusha et qui est clair, qui dit qu'aucun président du Burundi ne fera jamais plus de deux mandats.
Alors, Amadou Ould Abdallah, la différence peut-être avec ce qui s'est passé à Ouagadougou, c'est la résistance des militaires, hein, puisqu'une partie de l'armée est toujours fidèle au président. Pierre Nkurunziza, sans parler des milices du parti au pouvoir, les Imbero Nerakure, ça vous inquiète aussi, Monsieur Ould Abdallah ?
Oui, mais tout à fait. Ce qui m'inquiète d'abord, c'est la tragédie, c'est l'histoire tragique du Burundi. C'est une histoire violente depuis les années 60, mais l'armée, on ne peut pas la juger sur ce qui existe à Bujumbura. L'armée est en majorité en Somalie, en Centrafrique et au Mali. Et c'est ça qui est tragique. Elle n'a pas besoin de fissures nouvelles. Donc ce qui se passe, c'est entre ce qui reste de l'armée à Bujumbura et la garde présidentielle. Et c'est très inquiétant.
Voilà, toujours des petits soucis.
D'abord pour les Burundais, mais pour les pays. Vous m'entendez ?
On vous entend toujours, M. Ould Abdallah. Allez-y.
Oui, j'ai dit que ce qui est tragique, ce sont les conséquences pour les Burundais qui ont besoin de respecter l'esprit de la Constitution, c'est-à-dire la tolérance et tout ce qui peut amener à des remous comme ceux qu'on vient.
Alors, Robert Jackson, on le rappelle, vous êtes au département d'État ici à Washington. On le sait, les armes circulent, il y a cette tentative de coup d'État. Dans ces conditions, peut-on vraiment tenir les élections législatives puis présidentielles ?
Oui, nous appelons toujours aux élections, mais j'aimerais revenir sur l'accord de l'Arusha. Selon notre analyse, le président Nkurunziza a dit qu'il ne fera que deux mandats. Alors, la situation actuelle est une réponse à sa décision de poursuivre un troisième mandat. Et nous croyons que c'est très important de respecter l'accord d'Arusha toujours.
Alors, Willy Nyamitwe, vous avez entendu les uns et les autres. Hein, vous êtes évidemment le porte-parole du président Pierre Nkurunziza. Qu'est-ce que vous répondez ? On ne va pas revenir sur le fond du débat entre accord d'Arusha et constitution burundaise, mais qu'est-ce que vous répondez à ce flot de critiques burundaises et internationales contre cette troisième candidature du président Pierre Nkurunziza ?
Oui, je serai très bref et j'irai rapidement répondre à toutes ces questions ou interrogations ou points de vue. Moi, je pense qu'au niveau du Burundi, il y a peut-être une incompréhension, il y a peut-être un malentendu. Les gens ne parviennent pas à venir au Burundi et à comprendre réellement quelles sont nos réalités. Alors, si nous parlons d'accord d'Arusha et de constitution, l'accord d'Arusha, d'abord, c'est un accord politique qui a été consacré loi. C'est une loi ordinaire maintenant. Alors, comme l'accord d'Arusha a été voté comme une loi, cet accord ne peut pas être supérieur à la loi fondamentale, la Constitution. C'est ça où réside le débat. Si l'accord d'Arusha était resté comme tel, si l'accord d'Arusha n'avait pas été voté comme une loi, eh bien, peut-être que le débat serait autre. Je voudrais qu'on en reste là. Alors, quel pays au monde peut se référer à un accord politique qui d'ailleurs contient toujours des réserves et qui d'ailleurs ne peut pas avoir une valeur supérieure à la loi fondamentale qui a été votée au référendum. Alors, quelques politiciens qui étaient à Arusha qui sont arrivés à un accord ne peut pas remplacer nécessairement.
Mais Willy Nyamwitwe, la question aujourd'hui qu'on se pose, évidemment, avec la situation actuelle, est-ce qu'il est souhaitable d'organiser les législatives d'ici le 26 mai et la présidentielle du 26 juin ?
Ah, maintenant, en ce qui concerne l'organisation des élections, je pense qu'une chose qui est certaine, qui est simple à comprendre, c'est que nous avons eu quelques personnes qui sont allées dans la rue qui ont protesté contre la candidature du président de la République, mais candidature qui était présentée par le parti au pouvoir. Que les partis d'opposition protestent contre la candidature présentée par un parti au pouvoir, c'est normal. C'est les moyens, la voie empruntée qui n'est pas normale. Il y a des moyens, des voies prévues par la loi qui n'ont pas été empruntées. Alors, les autres ont emprunté le chemin de la violence. Mais malheureusement, il y a eu une certaine complaisance. Les gens n'ont pas vu que les gens étaient vraiment violents. Vous barricadez les routes. S'il y a des manifestants, il faut comprendre qu'il y a aussi des non-manifestants. Où sont les droits des non-manifestants ? Quand vous barricadez les routes et que vous empêchez les gens d'aller travailler, que vous empêchez les enfants d'aller à l'école et que vous mettez même des enfants au front, parmi les manifestants, vous comprenez que vous violez des lois qui sont internationalement reconnues.
Alors Willy Nyamwitwe, il y a également la question, pardon de vous interrompre, il y a également la question évidemment des réfugiés burundais. Près de 50 000 de vos concitoyens ont quitté le pays, la plupart au Rwanda voisin. Alors Frédéric Nikukinje, que vont faire ces personnes qui sont réfugiées maintenant depuis le mois d'avril, notamment au Rwanda ?
Hier, exactement, j'ai posé la question au ministre de l'Intérieur. C'était à propos de
Edouard Ndoumana,
mm-hmm. C'était justement pour lui dire qu'il fallait absolument donc changer la date prévue pour les élections. Lui, il m'a répondu que donc au Burundi, on n'a jamais organisé des élections pendant que plus de 50 000 réfugiés burundais ne vivaient pas à l'extérieur du pays. Il faisait référence notamment aux camps de réfugiés burundais en Tanzanie, qui ont vécu là-bas depuis des années. Alors, il a dit que donc des élections pourraient toujours se tenir.
Alors, on va poser la question à Robert Jackson, au département d'État. Est-ce que Washington appelle à un report des élections, vu la situation ?
Nous appelons toujours à la restauration du camp pour avoir des élections. Mais il faut noter qu'il y a plus que 100 000 Burundais et Burundaises qui ont décidé de quitter le pays. Ça, c'est un vote aussi. Et le fait qu'il y avait plus que 60 000 personnes qui fêtaient les événements d'hier est une autre indication que c'est important de restaurer un dialogue et que le président Nkurunziza regarde de nouveau sa recherche d'un troisième mandat.
Et alors, M. Jackson, que répondez-vous, notamment les partisans de Pierre Nkurunziza qui accusent les Occidentaux d'ingérence dans les affaires burundaises ?
Je ne crois pas qu'il y a d'ingérence. Je crois que tout le monde, tous les pays voisins, tous les membres du Conseil de sécurité, tous les membres du Conseil de paix et de sécurité africain croient que les événements sont une situation dangereuse pour le monde. Alors le monde doit intervenir.
Et on va retrouver à Addis Abeba Armoud Ould Abdallah. La connexion est rétablie. Quelle est, selon vous, la sortie de crise possible dans cette situation au Burundi?
Je n'ai pas bien entendu, excusez-moi.
Je dis, selon vous, quel va être le scénario de sortie de crise vu la situation au Burundi actuellement?
Ce que je peux dire, on ne peut plus revenir au statu quo, quel que soit le résultat de ce qui vient de se passer. On ne peut plus ignorer la tragédie que vient de vivre ce pays. Il faudrait donc revenir à l'esprit de la coopération entre les Burundais et penser aux conséquences des pays où servent les militaires burundais. Je ne pense pas que le cas du Burundi soit un cas normal. Le Burundi était malade, les voisins l'ont aidé avant Arusha et à Arusha. Il faut qu'ils sachent qu'il y a une responsabilité. Je ne dis pas que le pays est sous tutelle.
Voilà, on a à nouveau malheureusement perdu M. Ould Abdallah à Addis Abeba. Willy Nyamitwe, question pour vous évidemment. On revient, vous avez déclaré en ouverture de cette émission que le président Pierre Nkurunziza se trouvait actuellement sur le territoire burundais. Quel est votre message aux putschistes et à tous ceux qui ont rallié le général Godefroy Niyombare?
C'est un message simple, les temps des putschs sont révolus. Un message simple, le peuple burundais a droit d'avoir des dirigeants issus des urnes, des élections. C'est ça le principe le plus élémentaire de la démocratie. Mais rapidement, en ce qui concerne les réfugiés. Alors, si vous parlez de 50 000 qui sont à l'extérieur, allez les interroger. Il n'y a personne qui est blessé. Il n'y a personne qui vous dira qu'il a un frère ou une sœur qui a été tué. Il n'y a personne qui vous dira que ses biens ont été pillés. Mais tout le monde dit, nous avons fui à cause des rumeurs. Les rumeurs véhiculées par qui? Par une soi-disant société civile dont Pacifique fait partie, une soi-disant presse des médias qui ne font que véhiculer des rumeurs, et les gens ont peur et partent. Alors, vous parlez d'ingérence. Rapidement, je peux vous parler d'un seul cas d'ingérence. Si vous voyez les États-Unis, par exemple, je ne parle pas des États-Unis comme d'un pays, mais d'individus. Il y a certains individus, je vais parler de l'ambassadrice Samantha Power, par exemple, qui représente les États-Unis aux Nations Unies, qui est membre fondatrice de la radio publique africaine au Burundi, qui est une radio qui a véhiculé beaucoup de rumeurs tellement que des gens ont fui, qui est partenaire, qui a été un grand ami, une grande amie d'un opposant politique, le dirigeant du MSD, Alexis Ndouidje, qui a été cité par différents rapports des experts des Nations Unies sur la RDC comme étant parmi les fauteurs de troubles en Est, à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un simple cas d'ingérence et vous la verrez en train de tweeter beaucoup sur le Burundi, de condamner le Burundi sur chaque chose qui se passe, condamner le pouvoir burundais, mais tout simplement parce qu'elle a des intérêts à défendre. Alors, dans notre pays.
Willy Nyamitwe, on va justement parler de la radio publique africaine, on va parler de Bonesha FM également. Les locaux de ces radios ont été incendiés, soit attaqués ce matin très tôt, et pour le moment, nos confrères, notamment la RPA, qui est une radio partenaire de VR Afrique, qui sont empêchés d'émettre. On a entendu évidemment ce soir le point de vue des uns et des autres. C'est la mission de VOA Afrique, ouvrir son antenne et donner la parole à tous dans un souci d'équilibre. On rappelle la principale information de la soirée. Selon Willy Nyamitwe, porte-parole du président Pierre Nkurunziza, le chef de l'État burundais est rentré au Burundi malgré la destitution qui a été énoncée mercredi par le général Godefroy Niyombare. On va évidemment suivre ces événements sur VOA Afrique. Merci à tous, merci de votre fidélité à notre chaîne. Ainsi s'achève ce Washington Forum. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Merci à Lionel Gaïma, Linda Ringe et Jean-Michel Mathurin pour la réalisation de cette émission. Retrouvez Washington Forum sur notre site internet voaafrique.com. On continue évidemment la discussion sur Facebook et je vous dis à très bientôt sur VOA Afrique.